Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Doron Levy. Vous venez de publier Crise d'otage. C'est un livre passionnant vraiment sur plusieurs points. En plus, c'est votre métier. Vous êtes expert en sûreté, en protection des entreprises. Vous êtes chargé de cours dans plusieurs facultés en France et à l'étranger. Vous avez publié Braquage Actualité. Vous avez participé à l'ouvrage Sûreté Mode d'emploi. Et puis là, ce nouveau livre est publié aux éditions du CERF. Alors, Doron Levy, vous faites un livre sur ce qu'est les otages, ce qu'est une prise d'otage, mais ce qui est très intéressant, c'est que dans l'imaginaire collectif, l'otage, c'est toujours quelqu'un qui est pris dans un temps donné, pendant un laps de temps, c'est-à-dire le temps d'une braquage de banque. Les gangsters ont pris les otages dans la banque, ou quand ce sont des terroristes, ils ont pris des otages et on négocie. Mais en réalité, moi, quand j'ai vu votre livre, ça m'a amené à réfléchir à la définition d'être un otage. Puis en le refermant, je me suis dit, on est tous un peu otages dans notre vie quotidienne, finalement. Est-ce que ça a été aussi l'un de vos schémas de pensée ?
En fait, vous avez raison, c'est tout à fait ça, puisque j'étais en 2020 confiné comme nous tous, comme vous tous, et j'avais ce sentiment effectivement de privation de liberté, d'éducation, de circulation, etc. Et il y avait, alors évidemment c'est pas comparable, mais il y avait ce sentiment où on était un peu contenu et pas libre de ses mouvements, et ça donnait une sorte d'avant-goût, puisque j'étais dans l'écriture, de ce que pouvait ressentir quelqu'un dont on prive de tout. Et c'est vrai que ce statut d'otage, quand on est très, on peut évidemment pas se mettre à la place véritablement, mais on peut imaginer aisément ce que cela peut signifier pour une personne qui n'a rien demandé de se retrouver effectivement privée de cette liberté fondamentale. À savoir aussi que ce statut d'otage a fortement évolué, et il est surprenant de constater que depuis la nuit des temps, en fait, les otages ont été utilisés, mais ils ont été utilisés dans l'histoire avant tout pour faire la paix, en fait, entre certains peuples qui faisaient toujours la guerre, et c'est que seulement après qu'il s'est transformé en quelque chose de plus crapuleux et beaucoup plus sombre.
Ce que j'observe avec intérêt, c'est que dans notre vie, on est aussi, au-delà de l'anecdote du confinement que vous avez prise, on est tous un peu otages. Vous entendez des gens dire « je suis otage de mon travail, je suis otage de mon couple ».
Alors, on peut effectivement extrapoler cette notion d'otage et ce sentiment d'être pris en otage, mais ce que je vois aujourd'hui, surtout, c'est cette capacité à être pris en otage dans des contextes très différents. Je veux dire par là, vous êtes chef d'entreprise, vous licenciez quelqu'un, ou je ne sais pas, il y a une manifestation, vous pouvez être pris en otage par vos salariés, ce qu'on appelle le boss snapping. Il y a aussi aujourd'hui des phénomènes nouveaux qui apparaissent, comme des fausses prises d'otage, c'est-à-dire que les gens se marient, ou font une blague à la police, prennent en otage quelqu'un pour son enterrement de vie de garçon, etc. Donc c'est devenu quelque chose de très accessible, ou encore, aujourd'hui dans la presse, ce que l'on entend très souvent, c'est des prises d'otages numériques, électroniques, c'est qu'on est pris en otage avec une demande de rançon, hein, sonnante et trébuchante, que l'on soit une entreprise ou autre, avec des attaques par les boîtes mail, etc. Donc effectivement, cet otage continue encore jusqu'à aujourd'hui d'évoluer et de muter en quelque chose d'autre.
On va aller plus loin au fond de votre livre sur ce business, hein, le marché mondial du kidnapping. Mais je voudrais aussi vous poser une question. Par exemple, on est parfois otage. Est-ce qu'on peut dire que quand il y a une occupation d'un pays, la population est en otage? Est-ce qu'on peut dire qu'en France, au cours de la Seconde Guerre mondiale, la population française était finalement entièrement otage de l'armée allemande?
L'otage de guerre a existé et il est né dans la guerre. Si vous regardez bien, depuis les Grecs, les Romains, les pharaons, ils remettaient des otages et ils signaient des accords de paix. Les otages allaient dans le camp adverse, parfois se mariaient, grandissaient là-bas et revenaient et occupaient après des fonctions. Pendant les grands conflits mondiaux, on va dire des temps modernes, les otages étaient beaucoup moins, ils risquaient beaucoup plus leur vie, puisqu'ils étaient utilisés comme boucliers des populations entières, vous avez raison, mais c'était surtout des politiques, des notables, des gens importants, influents, que l'on prenait en otage pour forcer ou prendre un avantage dans la guerre. Mais l'otage, il est né dans la guerre, il a servi à faire la paix, mais pendant les guerres mondiales, il a surtout des destins très tragiques, puisqu'ils étaient souvent exécutés, et les populations, comme vous dites, étaient tenues en otage en attendant d'être libérées.
Quand vous voyez ce qui se passe, par exemple, en ce moment, en Ukraine, sur les zones occupées par les Russes ou revendiquées par les Russes, on voit que finalement, il faut pas être... je vais prendre l'exemple d'un professeur. Si, quand les Russes, l'armée russe arrive, s'il veut rester en paix et continuer de vivre, il doit enseigner finalement la grandeur russe et dire que sa ville, elle est russe et qu'elle n'est pas ukrainienne. Donc le gars, même s'il y croit pas, il est obligé de le faire. Puis après, il y a le village qui est libéré par les Ukrainiens et le gars se fait tabasser parce que c'est un collabo. C'est sans fin, quoi, finalement.
Oui, mais rien de nouveau. C'est-à-dire que ça a toujours existé entre nous. Tous les envahissements de territoire jusqu'à maintenant ont de façon directe impliqué le fait que de toute manière, les populations qui décident de rester, donc il y a celles qui s'en vont, il y a celles qui fuient en des zones plus sûres, mais celles qui restent acceptent, entre guillemets, les nouvelles conditions de l'occupant à plus ou moins long terme, puisque ça peut changer, puisque si la guerre n'est pas terminée, on l'a bien vu là récemment avec certaines régions justement en Ukraine, et puis après il y a le contexte géopolitique fait que parfois, peut-être que vous n'avez pas le choix. Et c'est en ce sens que vous avez raison, qu'on a le sentiment que c'est un otage. Mais finalement, ce sont des gens qui sont chez eux, qui sont quelque part libres de leur mouvement, mais sous tutelle, une tutelle qu'ils n'ont pas choisie.
Votre livre rappelle qu'il y a quand même, c'est un vrai business, hein, avec à peu près 30 000 enlèvements chaque année. Et nous, vu de France, tranquillement, le business de l'enlèvement s'est réservé à la Corne de l'Afrique, la Somalie, et puis quelques pays d'Amérique du Sud, et puis ça s'arrête là. Mais en réalité, on peut tous être concernés.
Tout à fait. La prise d'otages à l'étranger, de ressortissants étrangers, elle a plus un rapport avec le géopolitique et avec la guerre, on va dire. Mais elle reste, encore une fois, très souvent crapuleuse. Personne ne fait ça pour le plaisir ou pour le sentiment de puissance que cela peut procurer. C'est avant tout pour des raisons crapuleuses. Mais si on regarde de plus près, la plupart des prises d'otages, ce sont pas dans des régions... On peut très bien se faire prendre en otage. On voit ça en banlieue, on voit des séquestrations au domicile pour vider des coffres, on a des règlements de compte entre bandes rivales, on a des choses parfois très glauques, comme je fais allusion à l'affaire Ilan Halimi, que c'était une prise d'otage, mais qui a débuté avec une demande de rançon qui s'est terminée en meurtre antisémite. Enfin, il peut y avoir mille et une raisons. La prise d'otage, ce qui la caractérise, c'est que ça ne se passe jamais comme prévu, et que vous soyez aguerri ou pas, de toute manière, ça reste une équation à multiples inconnues et le danger est permanent. Et au milieu de tout ça, vous retrouvez des personnes qui n'ont rien demandé et qui doivent survivre. C'est pour ça que j'ai absolument voulu aussi expliquer et restituer les bonnes pratiques retenues par les témoignages donc de ces otages qui ont survécu pour essayer d'en retenir quelques lignes de vie pertinentes.
Je vais sortir un peu du livre pour vous poser une question plus personnelle. Comment intervenez-vous en tant que consultant auprès des entreprises ou des personnalités? Vous leur rappelez qu'il peut y avoir des contextes dangereux, une entreprise qui fait de l'exportation, qui doit envoyer des cadres en Amérique du Sud ou en Afrique. Vous les conseillez sur des bonnes pratiques de protection?
Alors en fait, ça se passe en trois temps différents. C'est-à-dire que le gros du travail que l'on réalise, c'est d'abord d'estimer le risque de façon, on va dire, précise concernant l'activité de la personne avec les différents processus en prévention. C'est-à-dire qu'avant qu'elle parte ou si elle a un risque qui la concerne par rapport à ça, elle doit savoir qu'effectivement, il y a des bonnes pratiques, il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à faire et il faut se préparer et accepter ce risque. Sinon, c'est dangereux. Après, vous avez la vie en captivité, la capture, l'évasion, la libération, ce sont des moments qui sont très difficiles. Et donc ces moments-là, ce qu'on explique aux gens, c'est surtout les interdits fondamentaux. Et le troisième temps qu'il y a par rapport à ça, que l'on explique aussi lors de ces formations, c'est la vie d'après. Donc c'est-à-dire que la vie d'après, elle va être difficile, puisque quel que soit votre profil d'otage, vous allez devoir vivre avec cette expérience toute votre vie, et c'est vrai que ça laisse des traces. Donc c'est en essayant de restituer les témoignages, et les gens, bon, ils écrivent des livres, ils se font soigner, ils se font suivre par des médecins spécialisés, mais j'ai essayé quand même de finir en explorant également cet aspect-là.
C'est vraiment passionnant. Et puis, on peut se douter aussi qu'en fonction de la nationalité de la personne, de son origine ethnique ou de sa religion même, les données ne sont pas les mêmes.
Ce sont des données qui vont compliquer l'équation. Mais à la base, une prise d'otage, elle est souvent motivée par une ou deux raisons fondamentales, principalement l'argent, bien sûr, ou des raisons, on va dire, de guerre, comme on l'abordait tout à l'heure. Après, vous savez, l'otage, il a rien demandé. Si effectivement il se trouve que il a telle ou telle ethnie ou telle religion et que en même temps il représente un symbole d'un autre État ennemi, c'est vrai que pour lui, ça sent pas bon. Donc encore une fois, mais ça n'est pas la raison principale. L'otage, les ravisseurs choisissent l'otage de façon spécifique avec des informations en amont. Et l'idée, c'est avant tout d'avoir un impact sur une décision politique si on est en guerre et qu'on demande ou l'utiliser comme un bouclier, mais c'est très souvent pour demander de l'argent et pour ensuite pouvoir subventionner des activités illicites si on est un groupe terroriste.
Parlons de ce qui nous passionne tous, c'est ce fameux syndrome de Stockholm. On a tous vu de cette fameuse série américaine où le soldat en Irak a été capturé par les djihadistes, il revient aux États-Unis, on croit qu'il est normal, et puis à un moment dans la série, il s'enferme dans son garage, il sort un tapis de prière, il se met à prier, donc on voit comment il a été retourné. C'est ça finalement le syndrome de Stockholm.
Alors, le syndrome de Stockholm, encore une fois, il y a des spécialistes, hein, j'ai cité des spécialistes vraiment reconnus en la matière, il a une définition clinique, mais c'est surtout que l'otage, après une telle expérience, il va devoir vivre avec, ce qu'on disait tout à l'heure, et chacun survit comme il peut, la plupart s'en sortent, mais certains, effectivement, expriment une sorte d'empathie absolument pour nous pas compréhensible, puisque nous, on n'a pas vécu ça, et ça va, par exemple, il y a un des otages avec qui j'avais parlé, qui était retenu en Syrie, qui m'avait raconté qu'il avait carrément tenté de recontacter un de ses ravisseurs via LinkedIn. Parce que cette relation, elle est très particulière. L'otage et le geôlier, c'est une relation presque incestueuse. C'est comme si les gens qui ont survécu à l'Holocauste, lorsque vous leur demandez de raconter, bon, tous ne racontent pas tout, mais en tout cas, ils ne racontent jamais les détails. Et c'est presque à se demander si... Il n'y a qu'avec leur ravisseur qui pourrait raconter et tout évoquer. Donc, on retrouve cet aspect incroyable dans cette relation avec le geôlier. On a même vu d'ailleurs aussi des geôliers qui eux-mêmes pouvaient exprimer une empathie absolue pour leur otage. Enfin, ça marche dans les deux sens. C'est quand même souvent l'otage qui en est la victime.
Alors, ça dépend aussi du comportement du geôlier. Peut-être qu'ils sont aussi intelligents et sont des stratèges. Si le geôlier, vous êtes enfermé dans un territoire occupé par Daesh en Syrie et que le geôlier fait semblant d'être sympathique avec vous, vous amène du thé ou du café, votre repas, s'assoit et puis progressivement vous dit que vous êtes une victime du monde occidental et que le Coran c'est pas si mal et vous apprend quelques vers du Coran et ça peut durer 3 ou 4 mois, on comprend que la personne puisse être retournée. Est-ce que mon exemple vous semble bon ?
Alors, je sais pas, je sais que c'est la nature humaine est pleine de surprises, mais là, on a des gens qui sont dans une situation d'exception. Vous avez d'une part quelqu'un qui est pris en otage, qui essaye de survivre. C'est très glauque, hein, c'est-à-dire que le risque de mort, il est imminent. Et de l'autre côté, vous avez un geôlier qui est souvent sous tutelle, qui doit préserver un avoir financier. Un otage, ça peut valoir jusqu'à 1 million d'euros. Donc, c'est-à-dire qu'il doit le maintenir en vie, il doit le garder discrètement et il doit pas s'enfuir. Donc, pour faire ça, je pense que les terroristes ont des pratiques où ils ne cherchent pas forcément à les maltraiter. Après, dans certains autres contextes, c'est sûr que vos conditions de détention, elles sont pas idéales, quoi. C'est-à-dire, on est quand même dans des choses assez glauques et les maltraitances sont pas rares, les tortures ou même les exécutions. Mais encore une fois, l'otage, s'il a été choisi pour une rançon, ils vont tout faire pour le garder et l'échanger en forme. Puisque s'il y a un otage, il peut y en avoir d'autres. Et si vous êtes payé, peut-être que derrière, vous en referez un autre. Encore une fois, tout ça, pour moi, c'est quelque part une sorte de business.
Dans l'histoire, je ne vais pas dire l'actualité parce que ça date maintenant d'il y a plusieurs dizaines d'années, on retient le baron Empin, par exemple, en France, on retient un journaliste qui avait été capturé par Jacques Mesrine, qui avait été otage. Est-ce que ce sont finalement des faits divers très rares qui peuvent arriver à des personnalités pour des motifs précis, ou est-ce qu'avec l'évolution de l'insécurité en France, eh ben vous nous dites attention.
Pour moi, la prise d'otage, c'est facile, en fait, c'est accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous regardez, il y a des bandes rivales de dealers ou de criminels qui, pour régler leurs comptes, séquestrent, prennent en otage. C'est pas si rare, finalement. Et je suis même pas sûr que le suivi statistique en la matière soit très précis, parce que je suis pas sûr que les gens déposent plainte, forcément, s'ils connaissent leur ravisseur. Mais c'est vrai que dans les années 70, 80, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, Éric Peugeot, enfin, il y en a eu plein, des banquiers, il y avait des notables, des gens connus, c'était de l'argent, c'était effectivement des grands bandits qui le faisaient, alors qu'aujourd'hui on a des affaires qui sont montées par des gens très peu aguerris, très peu préparés et qui peuvent concerner le monde en fait finalement.
Merci Doron Lévy pour nous avoir parlé de votre livre Crise d'otage publié aux éditions du Cerf. Moi ce que je vais vous dire c'est que au début, je me suis dit, tiens, c'est passionnant, c'est un sujet intéressant. Je l'ai presque pris avec amusement en me disant, je vais regarder une série comme sur Netflix. Puis finalement, en ressortant, on s'aperçoit que c'est un livre presque psychologique hein, qui retourne votre lecteur.
En tout cas, ça parle aux gens parce que évidemment, on se projette dans ce genre de choses. On a une sorte de d'attirance vers ces choses-là qui nous font peur puisqu'on se demande forcément, mais qu'est-ce que nous on ferait et comment on vivrait ça parfois, on a le jugement moral facile, parce que nous, on est tranquille, on est au chaud, on ne risque rien. Et quand on lit et on analyse comment les gens ont réussi à survivre, on ne peut pas tout comprendre. Et il y a toujours cette part de mystère qui subsiste finalement à la fin de tout ça. Et c'est intéressant, et merci en tout cas de ce commentaire, parce que j'ai essayé de parcourir ça de façon exhaustive, mais c'est évidemment impossible.
Doron Lévy, pour nous parler de son nouveau livre, vous êtes expert en sûreté et protection des entreprises, et le livre s'appelle « Crise d'otage » et est publié aux éditions du Cerf. Merci.
Merci à vous.